Cette semaine, à 100 commentaires ou presque, on se rend dans un restaurant du New Jersey pour refaire connaissance avec les commis les plus irrévérencieux de l'histoire du cinéma. Ils se feront un plaisir de nous cuisiner un trio Clerks 2 qui vient avec des frites, une grande boisson et beaucoup de dialogues savoureux. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à cet épisode de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Chers auditeurs et auditrices, j'ai une autre confession à vous faire. Et oui, je suis un très grand fan du réalisateur Kevin Smith et j'ai beaucoup, mais beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il fait au cinéma et encore plus pour ce qu'il fait ailleurs que sur un plateau de tournage. Par exemple, c'est des choses comme des conférences devant public, des spectacles d'humour, et il a même fondé son propre réseau radiophonique pour y diffuser ses nombreux podcasts auxquels il participe à toutes les semaines. Et comme vous allez me l'entendre vous le raconter un petit peu plus tard, ce gars-là est même l'une des influences qui m'a fait me lancer dans les podcasts il y a quelques années. Alors pour le remercier de son influence positive, mon invité d'aujourd'hui et moi avons décidé de dédier notre nouvel épisode à l'un de ses films. Et pas n'importe quel, celui que beaucoup de gens considèrent comme son meilleur, Clerks 2. C'est la suite de son film intitulé Clerks, qui était un long métrage indépendant en noir et blanc qui a tourné avec un très maigre budget au début des années 90. C'est même là que sont apparus pour la première fois à l'écran les personnages cultes de Jay et Silent Bob. Après la présentation très remarquée de Clerks au Festival du film de Sundance en 1994, c'est là où Kevin Smith s'est fait découvrir par l'industrie hollywoodienne qui a vu en lui un jeune réalisateur et scénariste très prometteur. Depuis cette époque, Kevin Smith a réalisé plusieurs autres longs-métrages de tout genre dans lesquels il s'est pas gêné pour y inclure ses dialogues uniques sur la culture populaire, son humour sympathiquement discutable et ses nombreux personnages récurrents qui reviennent faire un tour de film en film. On vous propose aujourd'hui de venir revisiter avec nous Clerks 2 pour voir si tout ce qui en fait un film mémorable est encore en place. Installez-vous confortablement, on vous emmène avec nous pour une petite virée nostalgique au New Jersey. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez découvrir ou même réécouter nos précédents épisodes, ils sont tous disponibles sur SoundCloud et Balado Québec. Vous avez juste à taper le nom de notre podcast dans le moteur de recherche et vous pourrez les écouter et les télécharger gratuitement. Et si vous passez par Facebook, n'hésitez pas à venir vous abonner à notre page pour recevoir en primeur des infos sur les nouveaux épisodes qui s'en viennent. Vous pourrez nous trouver au facebook.com/podcastscop ou simplement écrire dans la barre de recherche « podcast sans commentaire ou presque » et ça vous amènera là où il faut. Sans plus attendre, commençons maintenant notre épisode d'aujourd'hui. Le film Clerks 2, l'année 2006, réalisé par Kevin Smith et mettant en vedette Jeff Anderson et Brian O'Halloran au sommet de leur capacité d'acteur, Rosario Dawson, dont la beauté et le talent crèvent l'écran, Jason Mewes dans toute sa nouvelle sobriété et Kevin Smith avant sa crise cardiaque. Mes chers auditeurs, eh bien, on est de retour à 100 commentaires ou presque, et maintenant, on passe littéralement à l'action. Là, la gang, on est extrêmement chanceux aujourd'hui, ok? Parce que j'ai enfin réussi à avoir un de mes invités que je voulais depuis très longtemps, avec qui parler de Kevin Smith, c'est un plaisir. Alors, cette personne qui est devant moi, à chaque fois que je la rencontre, ça me garantit environ deux ou trois choses. Premièrement, ça me garantit un bon moment avec une personne de qualité. Deuxièmement, c'est sûr et certain qu'on va parler de cinéma. Et la troisième promesse que ça fait, c'est que c'est officiel qu'on va parler de Kevin Smith. Parce que lui et moi, on adore ce réalisateur-là. On le suit depuis ses débuts en 1993 et jusqu'à nos jours dans les multiples formes d'art qu'il a créées, cinéma, podcast et etc. Je pouvais pas recevoir un meilleur geek de Kevin Smith que lui. Alors, je vous présente Jonathan Demel. Jonathan, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien. Et toi?
Très très bien aussi, encore une fois. C'est, comme je te disais, c'est un luxe de t'avoir aujourd'hui. Je suis vraiment hyper content. Comme je le mentionnais, ça va être un plaisir de parler de Kevin Smith et de Clerks 2 avec toi.
Pour moi aussi, également.
Bon, avant, à la maison, vous vous demandez sûrement, ok, Jonathan, qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour venir parler de Kevin Smith aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais vous parler un petit peu de son pedigree de connaisseur de Kevin Smith, puis lui aussi, il va se faire un plaisir de vous en parler pour montrer qu'il a tous les droits de venir parler de ça aujourd'hui. Si Kevin Smith débarque à Montréal, que ce soit pour une projection spéciale ou bien une de ses fameuses conférences qu'il vient faire dans les Comic-Con, c'est officiel que Jonathan va être dans le fil d'attente, puis que moi, je vais être probablement un petit peu en arrière de lui dans cette même file d'attente. Là, d'ailleurs, on s'était croisés la dernière fois Kevin Smith était venu au Comic-Con. Ça fait combien de temps, à peu près? 2-3 ans?
Ça fait trois ans, je crois.
Quand il était venu il y a 3 ans, c'était vraiment pour se faire un petit peu pardonner, parce que je pense que l'année d'avant, il était venu au Comic-Con pour faire un podcast avec Jason Mewes, qui était Jane Silent Bob Strikes Back. Pas Strikes Back, excuse-moi, ben Jane Silent Bob Get Old, c'est ça?
Oui.
Puis il venait présenter aussi le Jane Silent Bob
Cartoon
Groovy, Super Groovy,
super
Cartoon
groovy.
Movie,
ouais.
C'est ça?
Exact.
Et ben finalement, Kevin Smith a dû se désister. Finalement, on a appris que c'était simplement parce que sa fille donnait un concert et qu'il n'a pas pu venir. Alors, ben c'est Jason Mewes qui est venu. En tant que fan de Kevin Smith, ben Jonathan nous a toutes plantés solidement dans l'accomplissement de quelque chose d'extrêmement geek. Toi, Jonathan, l'été passé, t'es allé pas mal à la Mecque des fans de Kevin Smith. Parle-nous un peu du voyage que t'as fait. C'était où?
Je suis allé à New Jersey et je suis allé justement au Quick Stop. Donc, c'était l'arrêt principal, on peut dire, évidemment, parce que quand tu vas au New Jersey pour ça, c'est l'endroit à voir, c'est l'endroit à visiter, c'est l'endroit mythique et culte qui, justement, il y a des gens même d'Irlande qui ont fait le voyage pour se rendre là. Et ça valait la peine parce qu'évidemment, tu es là. Et puis, c'est exactement comme c'était ou presque, en fait, parce que, bon, le RST vidéo n'existe plus. Ou c'est une pancarte qui est à demi dans la fenêtre. Mais l'intérieur, par exemple, du Quick Stop est pareil, sauf qu'il est plus petit qu'on l'imagine. Parce que dans le film, évidemment, là, il s'organise pour faire paraître un peu plus grand. Et j'étais très heureux de voir que ça sentait le pipi de chat. Donc, bonne référence, justement, au petit chat qui était sur le comptoir dans Clerks, là, l'original.
Quand t'es arrivé là, y avait-tu d'autres personnes un peu qui faisaient du cosplay à la Jane Silent Bob qui étaient aussi venues? Ou...
Non, on était les seuls. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait devant le lieu mythique. Et puis les gens qui passaient ne savaient pas trop qui on était censé être non plus. Alors c'était très drôle jusqu'à temps qu'une dame en voiture passe. Et puis là, ils nous reconnaissent et ils nous pointent du doigt en riant. Pour elle, c'était incroyable. Elle revoyait les personnages là.
Ben c'est très drôle. Ben c'est bizarre parce que ultimement, surtout dans ce coin-là du New Jersey, je pense que c'est à Leonardo, si je me trompe
Leonardo.
Pas. C'est ça, je comprends. Je comprends pas pourquoi les gens ne connaîtraient pas justement cette icône-là qui vient de là, mais en tout cas, c'est pas
mais je crois qu'avec le temps, c'est ça, c'est qu'avec le temps, c'est encore dans la culture, mais exemple, nous, on avait un gars qui réparait sa voiture juste à côté, donc dans la maison à côté, puis lui, il réparait ça, il y avait aucune idée de qui nous étions censés être, là, il nous regardait, mais c'était comme si c'était rien, il se demandait qu'est-ce qu'ils font eux à aller flâner devant le Quick Stop. Et puis à l'intérieur, oui, c'est ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'intérieur, t'as peu de choses de Kevin Smith. Je crois qu'il y a un ou deux journaux qui est là. Donc, ils ont mis les journaux avec quelques informations quand il a filmé le film, ainsi que le poster de Clerks 2. Okay. Donc, bon, c'est pas mal
des,
ça.
Au moins, il y a des références.
Quelques petites choses, exactement.
Puis, outre le RST vidéo puis le Quick Stop, es-tu allé ailleurs?
Oui, je suis allé à son comic book store. Donc, là-bas, qui était justement... Il a beaucoup utilisé ces lieux-là pour aussi Chasing Amy.
OK.
Donc, dans Chasing Amy, là, t'avais le, juste devant là, le... Comment il s'appelle le... Ah, j'ai oublié le nom. Le magasin de CD. Il y avait un magasin de CD dans lequel tu vois Jason Lee en train de magasiner les CD. Et puis, l'endroit où ça a lieu, ça existe encore. J'étais très surpris d'ailleurs de voir que ça existe encore, puisque évidemment, maintenant, avec notre ère, presque tous ces endroits-là sont en voie de disparition. Mais il était là, et puis il était aussi épique que dans le film, avec le deuxième étage, les escaliers, encore presque aussi beau. Et le même employé, donc un vrai clerk, parce que l'employé qui était dans le film, parce qu'il avait pris, puisque bon, il travaille là depuis très longtemps, donc il l'a laissé dans le film avec son petit café. L'employé qui est là, c'est le même employé qui était là quand j'y étais, donc c'était vraiment drôle de voir.
Les choses changent pas, c'est wow.
Ça ne change pas, c'est un vrai clerk, et puis je pense qu'il y a ça dans le sang.
Ouais, formidable. Ah non, ça a dû être un maudit beau voyage que t'as fait.
Très beau
surtout
voyage.
Que tu l'as fait un peu en cosplay. Fait que, non, ça c'est cool, ça c'est
exactement,
vraiment cool.
Exactement, en Jay et Bob. Et puis, ben, évidemment, à côté de ce comic book store-là, t'avais la ruelle dans laquelle Ben Affleck est très triste, dans Chasing Amy, qui est de la pluie. Et, là où il y a le dialogue avec Joe Lauren Adams, là, où est-ce que les deux ensemble se disputent, là,
ouais,
quand il y a vous.
Scène très poignante.
Exactement, avec le, tu vois même Kevin Smith avec sa caméra dans la fenêtre. Ben, pas dans la fenêtre, mais dans les grandes fenêtres autour, là.
Permets-moi d'y aller avec la petite question brise-glace. Là, on a vraiment parlé du début vraiment de nos amours respectifs pour Kevin Smith. À quel moment de ta vie t'as découvert Kevin Smith? T'as, avec quel film? Puis t'avais à peu près quel âge? T'es quand est-ce?
Ben, j'étais ado là, à ce moment-là. J'avais peut-être comme 15 ans à peu près. J'avais 15 ans et j'allais souvent au club vidéo pour essayer de trouver des films très... très indépendant, disons. Donc, j'essayais toujours de trouver des films qui allaient aller un peu à l'encontre de ce que je regardais souvent, qui étaient très hollywoodiens, parce que, bon, en VHS, là, je viens du Saguenay, donc là-bas, t'avais peu de films qui s'y rendaient, parce que ça devait être traduit, donc ça, évidemment, parce qu'on n'avait pas de cassette en anglais. Alors, pour moi, la première fois que j'ai vu un Kevin Smith, c'était au moment où j'étais dans un petit dépanneur qui s'appelait Sagami. J'ai loué les flâneurs, ça s'appelait les flâneurs. Donc
Mall
là,
Rats,
oui, exactement, Mallrats. Et pour la première fois, j'ai rencontré les personnages Jay, Bob. Est-ce qu'il y a bien d'autres personnages évidemment qui sont devenus cultes pour moi par la suite là, et des lieux aussi cultes. Mais c'était là que le tout a commencé et très très rapidement ensuite, je suis retourné à ce club vidéo là. Comme il n'y avait pas Internet, etc., tu devais découvrir par toi-même, donc tu devais aller d'une cassette à l'autre. Et derrière, les flâneurs étaient écrits du même réalisateur que Commis en folie.
Oh, là, il fallait que tu te mettes à la recherche de ce que c'était ce fameux Commis en folie, j'imagine.
Exactement. Et puis, j'étais tout aussi heureux parce que moi, ce qui m'avait accroché, c'est que les flâneurs disaient... Ils ne sont pas là pour magasiner, ils sont juste là. Et ça, je trouvais ça intéressant de justement trouver des gens qui ont pas vraiment de but, ils sont là, sans but. Je trouvais ça intéressant et Commis en folie disait, ils sont là pour vous servir ou quelque chose comme ça dessus. C'était fait, ils ne sont pas là pour vous servir ou vous aimer, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment drôle le tagline, il faudrait qu'on regarde ça. Mais c'était ce qui m'avait accroché, évidemment. Et puis, je voulais aller découvrir ça. Et quand j'ai commencé ce film en VHS, aussi graineux soit-il, aussi découpé soit-il en plein écran, etc., je suis tombé en amour autant que quand j'ai vu les flâneurs. C'était incroyable. Évidemment, j'étais heureux de découvrir que Jay et Bob étaient là, évidemment, aussi, parce que je savais vraiment pas là, que les personnages revenaient comme ça. Et puis, découvrir... Ah, là, je commençais à découvrir l'univers. Donc, je lis Dwyer, etc.
Alors, ben, c'est toujours très intéressant parce que ben ça fait partie du View Askew Universe, c'est ça, c'est tous ces films-là, ou presque, de Kevin Smith, font toutes partie du même univers. En fait, peut-être pas les plus récents qu'il a fait, mais ça fait vraiment partie d'un tout unique, d'un univers où est-ce que ces personnages-là peuvent s'entrecroiser, où est-ce que les événements de cet univers-là vraiment coexistent en un seul tout. C'est assez, c'est assez intéressant, carrément.
Oui. Oui, exact. C'est un peu le côté qui est un peu le côté comic books de ces films. Donc, comme dans les comic books, t'as les personnages qui s'entrecroisent tous, des super-héros, etc. Et évidemment, quand il a fait Jay et Silent Bob, c'était comme son sorte d'Avengers où tous les personnages allaient se rencontrer et puis interagir ensemble, même certains personnages plusieurs fois. Donc, ce qui était intéressant, de revoir le même acteur jouer plusieurs de ces personnages-là, c'était fabuleux.
C'est bien dit, j'avais jamais vu Jay and Silent Bob Strikes Back comme étant le Avengers de Kevin Smith, mais oui, je pense que maintenant, c'est une bonne définition qu'on peut y donner. Contrairement à toi, moi, j'ai connu Kevin Smith un petit peu sur le tard. Le premier que j'ai vu quand j'avais peut-être avoir 12 ans, c'est Chasing Amy, carrément, la conquête d'Amy. Ça passait à super écran. Puis, ce qui m'a accroché, c'est les dialogues, c'est une version doublée au Québec que j'avais trouvée, elle était bien sympathique, ça passait à super écran comme j'ai mentionné, et ça m'a carrément intéressé, je trouvais qu'il y avait une belle répartie entre les personnages, et j'ai vraiment regardé du début à la fin, j'ai trouvé ça hyper passionnant, puis à chaque fois qu'il repassait, je regardais dans le téléhoraire pour voir quand est-ce qu'il allait repasser, pour que je puisse me le retaper encore une fois, cette espèce d'histoire d'amour complètement atypique-là, et avec des personnages complètement sautés, des références pop, très bonne interprétation d'ailleurs avec des acteurs que j'ai appris à aimer au fil des années, tu sais, on a Ben Affleck qui est là avec ses dents britanniques, tu sais, avant qu'ils se les fassent visser ensemble, puis écoute, c'est merveilleux de revoir aussi la mode complètement horrible des années 90 aussi, vestimentaire, c'est assez hallucinant. Après ça, là, j'ai commencé à être intéressé par la suite parce que Dogma est sorti, et je suis allé le voir au cinéma à cette époque-là, j'ai bien aimé, après ça, là, bon, Jay and Silent Bob Strikes Back est arrivé, tous ces autres films, donc j'étais vraiment devenu un fan à partir de Chasing Amy, puis ce qui est drôle, c'est qu'après tout ça, là, je me suis mis à découvrir les premiers parce que Clerks et Mallrats, je pense que c'est vraiment les derniers de Kevin Smith que j'ai vu. Mallrats que j'ai trouvé intéressant, mais peut-être une petite coche en dessous de certains autres de ses films. Et Clerks, que c'est vraiment de ses films les plus récents, c'est le dernier que j'ai vu le plus récemment. Ça remonte à il y a quand même plusieurs années, mais c'était bien amusant de découvrir vraiment d'où ce gars-là, Kevin Smith, un gars un petit peu sorti de nulle part, monsieur hyper ordinaire qui a décidé d'aller suivre des études en cinéma pour finalement tourner un film dans son environnement de travail parce qu'à l'époque, il travaillait dans un un Quick Stop, dans ce fameux dépanneur-là, avec ses amis. Donc, baser un film carrément sur sa vie, sur les relations qu'il y a entre ses amis et ses collègues de travail, puis toutes les histoires de derrière de comptoir d'un dépanneur qu'il peut voir, c'est assez merveilleux. Puis aussi, moi, dans ma vie, ça m'a rejoint un petit peu parce que il y a eu des emplois que j'ai eu où est-ce que j'étais carrément un commis, soit dans un cinéma, soit dans un club vidéo. Fait que, tu sais, des histoires vraiment de flânage, j'en ai comme ça se peut pas. Puis, tu sais, pour passer le temps aussi avec des collègues, parler de culture pop, parler de cinéma, j'en ai énormément eu. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que ça me rejoint beaucoup le cinéma que fait ce gars-là. Puis, à la longue, pour moi, Kevin Smith, c'est pas seulement imposé comme un réalisateur que j'aimais bien, très sympathique, avec un talent peut-être limité, mais derrière la caméra, mais avec un talent incroyable pour écrire des dialogues. C'est ça qui fait sa force d'après moi. Mais il a commencé à toucher à ma vie à de différents aspects, parce que je sais pas si tu te souviens, mais après un certain film, je me souviens plus, je pense que c'était Jersey Girl ou Zach and Mary Make a Porno, il a décidé de prendre un break de la réalisation de films parce qu'il se disait, ok, ma game est terminée, mes films que je fais, même si j'ai le plus grand acteur comique sur la Terre, Seth Rogen, ça pogne pas. Alors il est comme tombé dans une mini-déprime, puis il s'est tourné vers autre chose, c'est-à-dire il s'est tourné vers une de ses forces, c'est-à-dire parler aux gens, fait qu'il a décidé de se lancer dans le podcast. Et ce qui est le fun, c'est que, Jonathan, je vais te faire une confession juste entre toi et moi, là, et quelques-uns de nos auditeurs. La raison pour laquelle on est ici autour de micro en ce moment, et la raison pourquoi je me suis lancé dans le podcast il y a quelques années, ben c'est justement à cause de Kevin Smith. Pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse, au début 2013, j'étais dans une place un petit peu bizarre dans ma vie. Genre, je venais de perdre un de mes emplois parce que le magasin dans lequel je travaillais a fermé. J'étais dans une relation, en fait, à la fin d'une relation amoureuse un peu bizarre. Je cherchais un petit peu quoi faire de ma peau à ce moment-là, parce que là, tout ce que je pouvais faire dans mes journées, c'était envoyer des CV, travailler sur mon portfolio pour les bonifier. Mais entre ça, je me disais, qu'est-ce que je peux faire de ma peau? Alors là, j'ai découvert son fameux réseau Smodcast, dans lequel j'ai commencé à downloader des podcasts, downloader justement des petites sessions questions-réponses qu'il fait avec le public quand il se promène aux États-Unis. Puis ce qui est formidable, c'est qu'à la fin de ces fameuses sessions questions-réponses, il y a toujours quelqu'un qui demande « Hey, Monsieur Smith, qu'est-ce que je peux faire pour un peu faire comme vous? » Ben, Kevin Smith, il va toujours invariablement partir dans une espèce de long soliloque d'à peu près au moins 10 minutes où est-ce qu'il va te dire, il va donner un gros pep talk à cette personne-là sur « Si t'es bon dans quelque chose, trouve le moyen de le faire et de le montrer aux gens. Puis si t'es chanceux, tu vas trouver le moyen d'être payé pour ça, mais fais quelque chose que t'as envie de faire et lance-le au monde carrément. » Puis il disait, c'est cette pensée-là qu'il a lancée vers le podcast. Alors, pas plus fou qu'un autre, je me suis dit, mais je suis bon pour parler aussi. J'ai plein d'amis intéressants avec qui je pourrais avoir des discussions, puis on pourrait en faire profiter nos auditeurs. Alors, ben, quelques semaines plus tard, je suis allé m'acheter justement des micros et je me suis lancé dans le podcast. Et ben, ça continue jusqu'à cet après-midi ici. Fait que, ben, je peux remercier Kevin Smith pour ça. D'ailleurs, on est bien content de l'avoir. Puis, comme t'as vu dans l'actualité, on a failli le perdre, lui, il y a pas longtemps. Il a souffert d'une crise cardiaque, il y a quoi, à peu près un mois et demi, deux mois, quelque chose
Oui, exactement.
Puis ça, c'est drôle, je sais pas si t'es comment, mais c'est un gars que j'étais pas prêt à perdre, honnêtement.
Non, effectivement.
Parce que juste ses podcasts, lui, je sais pas si t'en écoutes quelques-uns, moi, je suis très addict à Hollywood Babylon, qui fait avec Ralph Garman, j'aime bien aussi Edumacation, Smodcast, puis c'est dans mes habitudes quotidiennes de toujours en downloader un, puis l'écouter quand je prends une marche, maintenant quand je reviens du travail à pied ou quand je me rends au travail, c'est une voix que j'écoute dans mes oreilles depuis maintenant 4-5 ans. Puis perdre ça du jour au lendemain, j'étais pas tout à fait prêt, honnêtement. Tu sais, je pense qu'on a besoin d'un gars comme lui, on a besoin d'un exemple d'un gars commun qui a réussi à faire de très belles choses. Puis à sa mesure, tu sais, c'est pas un George Clooney, c'est pas genre un Vin Diesel plein de charisme. En fait, il y a énormément de charisme, mais lui, c'est dans un autre registre. C'est dans le registre de la communication, de l'humour. C'est un plaisir à avoir ce gars-là, honnêtement. Et j'étais pas prêt à dire bye-bye à ça du jour au lendemain, honnêtement.
Non, je pense que la plupart des gens n'auraient pas été prêts non plus. Surtout qu'il y avait un impact positif, comme tu le dis toi-même. Donc, il y a eu un impact très positif dans ta vie, il l'a eu dans la mienne. Je pense qu'il a touché beaucoup de gens, autant par son art visuel, donc avec ses films, que par ce qu'il dit justement avec les podcasts ou toutes les talks qu'il donne. Donc c'est sûr et certain que en faisant tout ce qu'il fait, il touche des gens. Donc là, évidemment, c'est sûr que ça aurait été une perte assez assez grande. Et en plus, je pense que, je sais pas si t'es d'accord, mais il reste encore beaucoup à accomplir, lui. Il est pas encore arrivé à dire bon, j'ai tout fait, non. Au contraire.
Tout à fait, parce qu'il y a encore un paquet de projets de films dont on va parler un petit peu plus tard.
Ah oui, ben oui.
Projet de BD. pardon, de télévision, d'un paquet d'affaires de même. Tu sais, le gars est quand même occupé aussi.
Ouais.
Alors, je pense qu'on n'a pas fini d'avoir notre dose de ce qu'il est capable de produire, tous médias confondus, puis tant mieux si on y a droit, honnêtement. Maintenant, on s'est rendu compte que sa présence avec nous autres, ça tient à un fil, ou au moins d'une ventricule qui fait en sorte que sa veine qui s'en va au cœur, ben, reste complètement désengorgée de gras. Alors, on va espérer qu'elle soit quand même désengorgée depuis longtemps possible, cette fameuse veine-là.
Parce qu'elle était en plus à 100%. Oui. Donc là, vraiment, c'était grave.
Fait que pour le citer, maudit Twinkies, hein, qui a mangé pendant son enfance.
Ouais.
On va revenir, on est aux moutons, carrément, au sujet du film d'aujourd'hui dont on va parler, Clerks 2, qui est sorti en 2006. C'est quand la première fois que t'as vu Clerks 2?
Moi, c'est un festival de films à Montréal qui l'ont présenté en avant-première.
Clerks 2, c'était lequel, ça?
Oui, c'était à l'Impérial.
Ah, mais quel festival, hein?
Le festival, c'était pas celui des films du monde, mais en fait, c'est
Nouveau cinéma, ça se peut-tu?
Non, pas le Nouveau cinéma.
Parce que c'est sorti en été, c'est ça?
C'est un festival qui a pas duré longtemps. Ça a duré 2 années, je crois, ce festival-là, puis ça a été terminé. Il y avait aussi joué le Cronenberg. Attends, c'était History of Violence qui avait joué. Il avait joué quelques films comme ça, un peu plus connus. C'était un festival qui allait pas trop, mais je me souviens pas du nom précis. J'ai cru que tu y étais, toi aussi.
C'est ça, j'ai vu Clerks 2, je me souviens, en 2006, avec des amis. C'était le soir de ma fête, puis après avoir été souper, on est allé au ciné et c'était très le fun, honnêtement, un très beau moment que j'ai eu, mais ça a été fait malheureusement pas dans un festival, mais plus dans un cinéma. La salle était jam-pack, je me souviens, à cette époque-là, puis tout le monde a eu un super beau moment. Et ça m'amène à te parler, je sais pas, moi c'est ma théorie, je sais pas si t'embarques aussi, mais j'ai pris Clerks 2 parce que selon moi, je trouve que c'est son meilleur. Sont plus accomplis, sont plus matures dans toute l'immaturité qu'il y a aussi dans ce film-là. Il y a quelque chose à dire aussi dans ce film-là. Oui. Il retrouve des personnages qui lui sont chers. Tout ça, ce melting pot-là, fait en sorte que, selon moi, c'est le film qui a le plus de qualité.
Oui, c'est sûr que c'est un de ces films très importants. D'ailleurs, justement, je pense que même avec la scène d'ouverture, avec le quick stop qui brûle, il y a quelque chose à aller chercher justement dans la symbolique de tout ça, de toute sa carrière, parce que évidemment le quick stop, ça fait partie de sa carrière. D'ailleurs, Zach and Mary, comme tu sais, c'est un peu autobiographique, hein, c'est faire le film où tu es présentement. Donc eux sont dans un café, ils font un film porno dans le café où ils sont, comme lui a fait ça dans son quick stop. Et justement de le faire brûler, de dire écoute, des fois il faut aller en dehors de sa zone de confort et essayer quelque chose d'autre, et c'est ce qu'il a fait avec ce script là. Évidemment, j'ai trouvé que le script était très très bon et c'est un de mes favoris, et puis c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai accepté très très bien de venir
très
ici.
Ça a été aussi que t'as accepté,
oui, non, sans problème. J'étais très content de parler d'un tel film.
Ouais, puis ce qui est drôle aussi, c'est qu'on va, chers auditeurs, on va varier un petit peu la formule, parce que bon, sans commentaire ou presque, je l'ai expliqué, c'est d'habitude on parle d'un film qui a des bons côtés et des mauvais côtés, mais tout ça pour générer une discussion. Mais le mauvais côté à Clerks 2, j'en vois pas beaucoup, même que je me demande si j'en vois carrément. C'est plus de mon côté, c'est un film que je regarde le soir quand j'ai rien à regarder, je sais pas trop quoi faire. Fait que là, bon, par défaut, je mets Clerks 2, puis ça me divertit, puis je suis toujours heureux de le revisiter. Fait que c'est un petit favori pour moi, honnêtement.
Ben, je partage quand même ton avis aussi. Je trouve que, justement, comme tu dis, c'est un petit plus accompli, c'est plus mature. Je crois que le seul côté que je pourrais dire qu'il aurait pu améliorer, mais bon, ça reste encore à discuter, c'est les relations avec les autres films, d'ailleurs. Tu sais, j'aurais aimé qu'ils mettent un peu plus de, le lien avec tel personnage, tel autre personnage, parce que le film, c'est une suite directe. Pour la première fois, il faisait une vraie suite, mais c'est pas exactement dans le même monde du Askew Universe qui a été fermé justement à Jason and Bob, quand tu te souviens, avec la scène de Alanis Morissette,
oui,
exactement, la déesse qui ferme le livre. Donc en ayant fait ce film là, il s'éloignait un peu du universe. Quoi qu'il
restait.
Oui, tout en y restant. Donc, c'est sûr que les relations avec les autres films n'étaient pas exactement présentes. Mais je pense que c'était la chose qui manquait, parce que, évidemment, comme toi, je trouvais que c'était son film le plus accompli, le plus mature aussi, là, dans l'immaturité, parce que bon.
Oui, il y a des trucs très, très adolescents, très pipi caca poil, bien sûr, mais bon, ça fait un peu le charme, on boudera pas son plaisir pour ça,
non,
mais ça fait partie aussi de, ça vient avec Kevin Smith, c'est son genre d'humour un petit peu, comme on l'a vu dans ses précédents films. Alors, ça vient avec le package. On décide d'écouter Clerks 2, ben, faut s'attendre à ce que ça se produise. Mais on va va en parler en détail de toutes ces scènes-là. Ça va être assez hallucinant. Si on commençait tout de suite, alors pour vous situer, le film commence exactement comme Clerks, c'est-à-dire en noir et blanc. On retrouve notre ami Dante X, maintenant âgé d'à peu près quoi, 33 ans, qui débarque devant le Quickstop, sort de sa voiture, défait le cadenas, ouvre le fameux shutter, les fameux volets, et bang, le Quickstop est complètement en feu et prend son téléphone et appelle les pompiers. C'est à partir de là que le film, attention, passe du noir et blanc à la couleur, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'univers de Clerks. Et bon, finalement, les pompiers débarquent. Dante est rejoint par notre ami Randall Graves, encore une fois âgé de 33 ans. Les deux, pendant tout ce temps-là, pendant les 13 dernières années, ont encore travaillé au Quick Stop et on s'est rendu compte que le Quick Stop a passé au feu parce que Randall a oublié de fermer la cafetière avant de fermer le magasin le soir d'avant.
Il s'en rend même pas compte parce qu'évidemment, il rentre dans le Quick Stop comme si rien n'était.
Il voit pas la fumée, il voit pas les pompiers en train, genre, de défaire la baraque. Il se fait juste comme pitcher à l'extérieur.
Et c'est drôle de dire parce que ça fait 10 ans avec le premier, ben, en tout cas, le timeline, là, de 10 ans entre les deux films. Et au lieu de rentrer au RST vidéo, il rentre directement au Quick Stop, exactement comme dans le Clerks 1, où est-ce qu'il se rend même pas à sa propre job tout de suite.
Ouais, non, parce que le RST vidéo ouvre toujours après le Quick Stop, c'est ça qui est amusant. On va faire un saut à peu près, c'est quoi selon toi, 2 ans plus tard ou un an plus tard? C'est-à-dire, c'est ça.
Je pense pas que c'est...
J'ai l'impression, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est 2 ans plus tard à peu près. On s'entend-tu sur 2 ans?
Ouais,
juste pour les besoins de ce podcast-là.
Ouais, okay.
On va dire 2 ans plus tard, on fait une petite ellipse. Où est-ce que maintenant, Dante et Randall ont dû trouver un boulot de remplacement parce que le Quick Stop n'a pas été réouvert. Il continue à rester complètement brûlé et décrépit sans que personne s'en occupe. Alors, les deux sont trouvés un emploi chez Moby's, c'est-à-dire un magasin un restaurant d'une chaîne de fast-food. Et ben, tu parlais de connexion, mais Moby's qui a été introduit dans Dogma.
Exact.
Et on en a parlé un petit peu aussi dans Jay and Silent Bob Strikes Back. Je pense qu'il y a une ou deux scènes qui se passent à l'intérieur d'un Moby's. Alors, les deux travaillent là maintenant. C'est leur nouveau domaine, leur nouveau territoire où ils peuvent flâner tout en travaillant le moins possible. Donc, c'est assez amusant là-dedans. Et ben, le film se passe dans un espace-temps quand même assez court. Le film se passe pendant une seule journée. La dernière de Dante à l'emploi de chez Moby's. Parce que Dante, pendant ces, on va dire encore une fois, ces 2 ans-là, sa vie a eu un petit peu le temps de changer. On va en reparler un petit peu. Moi, ça m'amène à te poser la question. 10 ans plus tard, les deux gars sont âgés d'à peu près, c'est ça, 33 ans. Où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur vie, selon toi?
C'est sûr que je pense que ce qui est drôle, où il en est rendu Dante, c'est justement de voir qu'il est dans le même dilemme à nouveau. Donc, ce que j'appellerais le complexe d'Archie. Donc, dans le premier film, t'avais Caitlin et Véronica. Et il n'arrivait pas à choisir entre les deux. Exactement comme Archie, Betty et Véronica. Exactement.
Oui.
Et là, encore une fois, le voici avec Emma et Becky. Et encore ce dilemme-là. Donc là, le personnage est encore dans un même dilemme. Mais la maturité envers les deux personnages, c'est-à-dire la maturité avec Randall et Dante, a changé du sens que je crois que leur amitié s'est un peu affirmée. Donc, ils sont devenus encore plus amis. Je crois que les années ont à voir là-dedans, ça c'est sûr et certain. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses dont on n'a pas été témoin malheureusement. Mais quoique, si tu regardes l'animated series, bon, en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut voir que justement Kevin Smith a imaginé pour eux ou son court-métrage...
Flying Cars,
oui,
c'est ça.
Oui, Flying Cars, incroyable.
Surtout aussi que ça faisait un petit bout de temps qu'on les avait pas vus, ces deux-là. Je pense que ça faisait à peu près 5 ans parce qu'il y a un petit caméo dans, justement, Jane Silent Bob Strikes Back, dans le fameux flashback, un peu à la planète des singes, là.
Ah oui.
Puis c'est ça, ils sont là, les deux. Alors, ça fait plaisir de les revoir un petit peu plus rondouillés qu'avant, bien sûr. Les années ont, à force de travailler dans un fast-food, j'imagine qu'ils ont pris un petit peu de poids et tout ça. C'est ça. Moi, je peux peut-être parler de Dante. Lui, bon, dans le film, il est sur le point de se marier. Il a fait la rencontre de sa fiancée, Emma. Après cette fameuse journée-là, la dernière de Randall chez Moby's, c'est prévu pour que Emma et Dante déménagent en Floride après le mariage et Dante va devenir le gérant d'un lavoto qui appartient au père d'Emma. Alors, ultimement, lui, Dante, il est bien content, selon moi, parce qu'il semble accepter ce qui lui est imposé un petit peu. On sent, parce que là, il se fait imposer un nouvel job, une nouvelle copine, etc. Ben, même s'il se marie, je sais pas si c'est son idée, mais on lui impose pas mal ça, mais il est content parce qu'il peut passer enfin à une autre étape de sa vie pour, ultimement, rentrer dans le fameux moule de la société américaine, d'avoir une épouse, une maison, un travail stable. Puis Randall aussi, ben je peux peut-être en parler. Lui, moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que les 13 dernières années ont pas eu d'effet sur lui. Peut-être qu'il y a une meilleure connexion encore plus côté amitié, comme tu l'as mentionné, avec Dante, mais j'ai l'impression que c'est un peu exactement le même Randall qu'on a toujours eu. On pourrait carrément regarder Clerks et Clerks 2 direct puis se rendre compte que c'est, on dirait que c'est du jour au lendemain pour lui. La répartie d'enfer qu'il y a, elle est toujours là, même qu'elle est encore 100 fois meilleure. Puis aussi, il faut juste, je le dis, écoute, Jeff Anderson est en feu dans ce film-là.
Oui,
pour
oui.
un acteur qui n'est pas de formation classique, ni de formation professionnelle, un acteur amateur, il est en feu là-dedans.
Ouais,
c'est hallucinant.
Excellent.
Puis, il est super bon pour sa répartie, comme je disais, dans les conversations générales, dans la conversation de culture pop. Et on va en venir un petit peu plus tard, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu plus affecté qu'il laisse voir par la fermeture du Quick Stop, par le départ de son grand ami, aussi peut-être vers le fait que, bon, il avance dans la trentaine, et etc. Ça, on va en venir un petit peu plus tard, mais j'ai l'impression que c'est ça qui est peut-être moins impassible qu'il veut le laisser paraître sur son état dans la vie en général, parce que ses priorités, lui, c'est encore habiter chez sa mère, amener des filles à la maison, réussir à les séduire parce qu'il y a un permis de conduire. Alors, ça ressemble pas mal à ça. Pour redécouvrir la fameuse dynamique, la belle chimie qu'il y a entre Dante et Randall, j'aimerais ça qu'on regarde un petit extrait. J'ai choisi juste pour le plaisir de la chose. À un moment donné, ben, il y a Randall qui semble un petit peu confondre deux personnages un peu de la culture américaine, c'est-à-dire Helen Keller, qui était une femme sourde, muette, avec une déficience intellectuelle qu'un professeur a réussi à lui apprendre justement comment fonctionner. Et il a l'air aussi à mélanger la fameuse Anne Frank, la petite juive qui a écrit son fameux journal. Alors, il pense que c'est la même personne. Alors, bon, Dante va essayer de le ramener vers le droit chemin pour essayer de faire un peu la différence entre les deux. Alors, on va l'écouter ensemble. Juste avant qu'on parte l'extrait, je veux juste vous dire, chers auditeurs, on va faire une légère exception à la règle, parce que d'habitude, dans les derniers épisodes qu'on a enregistrés, je tenais à ce qu'on passe des extraits en français pour tout simplement que notre public comprenne, ceux qui ne parlent pas nécessairement l'anglais, mais on va faire une exception cette fois-ci, on va passer les extraits en anglais. Pourquoi? Parce que je trouve que ça dénaturerait un petit peu le génie et le plaisir des dialogues de Kevin Smith, parce qu'au départ, il y a une version française de Clerks 2 qui existe, Commis en folie 2, comme on l'a mentionné, elle est doublée au Québec, la traduction, elle est très bonne, mais après l'avoir écouté, je trouve que l'essence des dialogues est un petit peu perdue dans la traduction. Alors, c'est pour ça que je vais vous imposer qu'on écoute les extraits en anglais. On écoute ça maintenant.
Have you become so embittered that you now feel the need to attack the handicapped?
What handicapped? That guy's just in a wheelchair. It's not like he's Anne Frank or something.
Anne Frank?
Yeah, Anne Frank. The chick that was all, till the miracle worker showed up and knocked some smarts into her.
You're talking about Helen Keller.
No, I'm not. I'm talking about Anne Frank. She was deaf, dumb, and blind.
No, she wasn't. Helen Keller was deaf, dumb, and blind.
Are you sure?
Yep.
And who the fuck's Anne Frank?
Anne Frank's the little Jewish girl who hid from the Nazis in a secret room with her family. She wrote a diary.
Oh, yeah. Well, then I guess this guy is like Anne Frank, what with the diary and all.
No, he's like Helen Keller with the handicap, you jerk!
You always gotta be right, don't you? You Nazi douchebag.
Ah, quelle belle répartie entre ces deux gars-là. Le fait que Dante et Randall aient passé du Quick Stop au Moobies, en fait, ils ont pas été là tout seuls. Ils ont été suivis par nul autre que Jay et Silent Bob, nouveaux et améliorés, comme tu le disais. C'est un plaisir de les revoir, parce que, écoute, quand on parle de Kevin Smith, bien sûr, c'est associé au personnage de Jay et Silent Bob, ça c'est bien sûr et certain, depuis aussi longtemps que Clerks, carrément.
Exact.
Et ils sont là dans une toute nouvelle version améliorée, puis moi j'ai beaucoup aimé l'approche que Kevin Smith a mis dans ces personnages-là quand il les a écrits, c'est-à-dire simplement pour la suite, Clerks 2, parce que d'après moi, ils ont été écrits, introduits dans le film dans une approche toute personnelle, parce que au départ, pour la petite histoire, Jason Mewes, qui fait Jay, ben lui, ultimement, au début des années 2000, a eu des problèmes d'addiction à la drogue, aux médicaments, à l'alcool, ça a vraiment pas été très très jojo son affaire. Ce gars-là serait mort depuis des années si son grand ami Kevin Smith n'avait pas été là pour l'amener en désintox, lui donner des encouragements, veiller sur lui. Et le fait que Jason Mewes se retrouve dans Clerks 2 et qu'en grande partie Clerks 2 existe, ben c'est dû à une promesse que Kevin Smith lui a fait, lui a dit sors de ta désintox, rétablis, puis si jamais maintenant t'es sobre pour toutes tes addictions, ben je vais te donner l'opportunité de rejouer Jay au cinéma une autre fois. Alors ça a pas pris plus que ça pour que Jason Mewes revienne dans le droit chemin dans la vie et qu'ultimement apparaisse dans Clerks 2 en donnant aussi une excellente performance. Puis moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que les histoires, comment dire, où est-ce que Kevin Smith s'est beaucoup occupé de Jason Mewes dans sa vie, ben ça apparaît dans une autre scène dans le film où est-ce que les deux se retrouvent. Tu te souviens de cette fameuse scène-là? Moi, c'est une de mes préférées où est-ce que Jay est devant pas le Quick Stop, mais le Moby's, puis il dit « Ah oh non, je commence à m'ennuyer », puis l'ennui, c'est la première étape vers le retour vers la drogue, c'est ça, vers une rechute. Ce que j'adore beaucoup, c'est que là, Silent Bob entend ça, ouvre les grands yeux, fait comme « Oh non, je peux pas laisser ça arriver », s'en va chercher son gros radio cassette, puis part la toune de Q Lazarus, « Goodbye horses », puis ça, ça a l'air de rien, mais moi, j'y vois beaucoup de symbolisme, c'est-à-dire, il voit son ami qui est sur le point d'une rechute, alors là, il fait quelque chose pour lui changer les idées carrément.
Lui remonter le moral.
C'est ça, lui remonter le moral. Fait que ça, je trouve que c'est un beau petit moment de ces deux personnages-là. Et il y a une grande signification quand tu penses à ça, quand tu connais l'histoire derrière ça par rapport à ça. Alors, parlant des tout nouveaux Jay, Silent Bob améliorés, ben moi, je pourrais te proposer qu'on écoute un petit extrait entre eux autres. Eh bien, les deux, bien sûr, n'ont pas laissé leurs habitudes de commerce de côté. Ils continuent, bon, à être des petits vendeurs de weed ici et là devant le Moby's. Alors, bon, on va les regarder pendant leur première transaction avec leur nouveau client et c'est parti.
I haven't seen you guys in a while, man. Where you been all this time?
Me and Silent Bob finally bought a car. We're cruising down to the boardwalk. Fucking Middletown cop pulls us over for suspicion of mischief.
What the fuck does that mean?
We were driving around with deployed airbag. The cops pull us over. They find 2 pounds of Jamaican lamb's wool. Prosecutor wants to put us away for a dime, but the judge gives us rehab instead.
Shit, rehab?
Yep.
How long were you in?
6 months, sir. We got 6 months and 2 days on the wagon as a good friend of Bill W's.
Yeah, but if you're holding all the time, aren't you going to be tempted to get high?
Oh, not with the power of Christ on my side, sir.
Is that a fucking Bible?
Hey, the holy fucking Bible, son.
The fuck kind of songbird Jesus freak dealers you bring me to?
I like them, man. They're funny.
You should read your Bible, sirs. You'll find all types of weird shit in there. Like, do you know Jesus was a Jew?
Je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si c'était de mon avis, mais moi je regardais le film il y a pas longtemps avec une copine pour me mettre dedans pour l'épisode d'aujourd'hui. Elle s'est vraiment dit, waouh, Mewes est comme à son top de sex appeal, là, honnêtement là, il est très très beau honnêtement dans ce film là.
Ouais, ben je pense que justement en ayant même le temps là, mais je crois que en ayant laissé de côté toute sa consommation, ça l'a un peu, je sais pas.
Ouais, ben ce qui est triste, c'est que si tu le regardes maintenant, Jason Mewes en 2018 a une face complètement différente que dans ce film-là.
Ouais.
Parce que encore une fois, Kevin Smith l'a raconté à cause, je pense qu'il a fait de l'héros, plein de médicaments, fait que ça fait en sorte que ça a affecté sa dentition, ses dents sont mis à tomber. Alors Jason Mewes récemment s'est fait visser un tout nouveau set de dents dans la bouche, mais ça lui donne une forme de visage complètement différente. Honnêtement, il y a vraiment, quand il sourit, en tout cas c'est vraiment bizarre honnêtement, sa morphologie de visage a changé. Bon, ça a pas, c'est pas plus grave que ça, c'est purement esthétique, là, sa personne elle reste quand même la même. Mais en tout cas, ça a été le commentaire de la fille avec qui je l'ai écouté qui était « Waouh, mon Dieu, qu'il est sexy, Jason Mewes! »
C'est sûrement parce qu'il dansait pour elle.
Oui, ben c'est ça, sûr, exactement. C'est sûr. Il y a avec le toc, puis le toc à l'intérieur. « Oh, goodbye horses! » C'est incroyable. Fait que moi, c'était le petit commentaire féminin de mon ami qui a bien aimé voir notre ami Jason Mewes comme ça. Et qui dit nouveau film, qui dit nouvel emploi pour Randall et Dante, ben on va voir également l'arrivée de nouveaux personnages. Je dirais trois en particulier. On va commencer par un des collègues de Dante et Randall qui s'appelle justement Elias. Mm-hmm. Et Elias, petite anecdote pour toi, est nommé en l'honneur du joueur préféré des Devils du New Jersey de Kevin Smith, Patrick Elias, justement l'ancien capitaine et très bon joueur qu'on a failli avoir à Montréal en 2003 en plus. Mais finalement, Réjean Hall n'a pas été assez bon pour aller nous chercher. C'était l'anecdote hockey de la journée. Et c'est ça. Donc lui, Elias, bon, bien amusant. C'est un jeune ado, adulte, à peu près 19 ans, un petit geek, un petit peu pogné, vit dans une famille très chrétienne, religieuse. Tu sais, vraiment le petit ado pogné qui a l'air comme pris dans sa peau, puis qui c'est sûrement sa première job dans un fast-food. Et ben c'est un petit peu aussi le souffre-douleur de Randall. Parlant de ça, moi, ce qui est drôle, c'est que c'est peut-être le côté que j'aime moins de Randall dans ce moment. Il est très bourré. Tu sais, par exemple, dès les premières minutes ensemble, Randall saute dessus, il pitche des petites bouteilles de papier, parce qu'il arrête pas de ridiculiser sur ses intérêts dans la vie, les Transformers, entre autres et tout ça. Donc il fait un petit peu pitié, il fait un petit peu le chien battu dans ce film là, mais d'ici la fin du film, il commence à avoir un meilleur rapprochement entre Dante, pas Dante mais entre Randall et Elias, et on est surpris aussi d'Elias à la toute fin.
Oui, on est surpris, exactement. À un moment donné, c'est sûr qu'il va sortir de lui-même parce que je crois que justement, au début, on voit encore toute la jeunesse, l'innocence en lui. Et puis, chaque fois que Randall fait des commentaires, là, tu vois qu'il découvre des choses, mais en même temps, c'est des choses qui le choquent parce qu'évidemment, Randall va pas dire des choses trop...
Non, c'est ça, il fera pas dans la dentelle, mais non, il va faire plus dans la vulgarité que d'autres choses. Ouais.
Exactement, c'est ce qui vient le choquer. Et puis, il se rend compte justement que le monde dans lequel on vit, il y a de tout.
Ah, il y a des tentations
de
et tout ça. Oui, absolument. Ouais. Et finalement, il grandit. Puis, il y a un beau petit arc à la fin parce que il va se faire accepter par cette belle gang-là à la toute fin. Puis, ils vont former un espèce de beau tout comme une grande famille. On va y venir un petit peu plus tard. Mais aussi, on va voir l'arrivée de la charmante Becky, qui est la gérante de la succursale du Moby's. Et qui s'entend très, très bien avec Dante, justement.
Oui, dès la première scène, on se rend compte qu'ils ont un rapprochement très fort. Parce que, il dit bonjour au travers de la fenêtre, ce qui vient d'ailleurs donner des commentaires avec Randall qui remarque la chose.
Oh my god. Oui, tout à fait. Puis, il y a une belle complicité. Alors, Becky, qui est jouée par la somptueuse et merveilleuse Rosario Dawson. Et à chaque fois que je vois Rosario Dawson, je peux pas m'imaginer autre chose qu'on dirait que Becky, c'est Rosario Dawson dans la vraie vie. Une fille pleine de réparties, qui adore sourire, qui a toujours une réplique extrêmement smart à dire, qui a l'air d'être un plaisir avec qui être à chaque fois. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est Kevin Smith, a senti ça aussi parce que tout de suite après Clerks 2, le film qu'il a écrit, c'était Zack and Miri Make a Porno, puis il l'a carrément écrit pour Rosario Dawson. Le rôle de Miri, c'était pour elle, sur mesure. Finalement, malheureusement, elle a un petit peu brisé le cœur de Kevin Smith en disant qu'il n'était pas disponible pour jouer ce film-là. Mais c'est pas grave. Anyway, Kevin Smith a vu à quel point c'était une merveilleuse fille. Puis, gars, j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois Rosario Dawson dans ce film-là parce qu'à cette époque-là, je fréquentais une fille qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau et qui avait exactement la même personnalité. Alors, voilà. Pamela, tu me manques. T'es tellement une super lady. On sent justement qu'elle est sur un même pied d'égalité avec Dante sur l'intellect, sur les références, sur la répartie, sur les priorités dans la vie, sur ce qui est important aussi. Et on va découvrir un petit peu plus tard, ils ont été un petit peu plus intimes qu'on pourrait le laisser croire. Puis elle aussi est un petit peu, elle montre pas, mais tu sais, elle trouve ça un petit peu plate que aussi Dante en soit sa dernière journée. Et le troisième et dernier personnage qu'on voit qui est très important, c'est Emma, la fiancée de Dante, qui est jouée par l'épouse de Kevin Smith, Jennifer Schwalbach. Depuis qu'ils sont mariés ensemble, Kevin Smith a toujours donné à son épouse un paquet de rôles dans ses films. Puis ce qui est amusant, c'est que cette fille-là, encore une fois, ce n'est pas une actrice de formation. Ça, au départ, c'était une journaliste pour le USA Today, si je me trompe pas, ou le LA Times, si je suis pas trop sûr. Mais c'est une actrice complètement non professionnelle. Puis finalement, là, elle arrive avec un rôle dans Clerks 2 avec énormément de dialogue, parce qu'il faut que ce soit dit avec attitude, puis avec confiance, et elle se débrouille extrêmement bien. Est-ce que tu as trouvé la même chose?
Oui, elle se débrouille très bien. Elle était bien castée malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de backlash à propos de ça. Il y a des gens qui nous ont dit « Ah, pourquoi te caster ta femme? » Mais il a dit « je casse toujours mes amis dans mes films. » Et puis elle, ça fait partie de mes amis. Donc oui, elle a sa place. Et j'ai trouvé que le rôle, elle l'avait très, très bien. Puis on voyait que elle était très amoureuse de Dante. Malgré tout, parce qu'elle fait vraiment tout pour lui. Dans le fond, c'est même difficile à trouver quelque chose. Oui, des fois, elle lui donne pas de l'indépendance, mais elle fait beaucoup de choses très positives pour
Dante. Exactement. Puis elle va faire des choses aussi que, tu sais, n'importe quel gars, admettons, on aimerait vivre. Tu sais, on est au travail, puis qu'est-ce qui se passe? Elle va visiter son copain pendant son shift. Elle va aller l'embrasser. Elle va demander, viens prendre ta pause avec moi. On va passer un moment ensemble. C'est ce genre de truc que je trouve romantique, qu'on aime vivre par rapport à ça. C'est juste que je pense la seule chose qui déplaît un petit peu à Dante, c'est que ultimement cet amour-là qu'il a pour elle, il doit suivre la condition un peu de se dépayser, c'est-à-dire de quitter le New Jersey dans lequel il est bien, parce que elle déteste justement cet état-là, elle ne veut pas y être. Son rêve, c'est de partir en Floride. Alors par amour, par le fait qu'il a peur de perdre l'amour de cette femme-là, en disant non, je préfère le New Jersey, elle va devoir la suivre et un petit peu se déplanter pour aller ailleurs. Je pense que c'est le seul truc qui lui déplaît, qu'il va quand même accepter, mais qu'il est un peu réticent sans qu'il le dise. Mais tout ça pour dire que Emma, c'est ça. Bon, un personnage intéressant, bien joué d'ailleurs. On peut pas trop l'haïr parce que c'est pas la méchante du film non plus. Tu sais, on comprend ses motivations. Exact. À la toute fin, elle risque d'être un petit peu déçue, comme on va le voir tout à l'heure. Parlant des acteurs, écoute, faut qu'on parle des caméos parce que moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que Kevin Smith ramène un peu sa vieille garde dans des petits rôles plus ou moins parlants. Et il va ramener des acteurs avec qui il a travaillé depuis ses tout début. Premièrement, on peut pas passer sous silence le caméo de notre ami Batfleck, Ben Affleck, qui fait une petite apparition en tant qu'un client de chez Moby's, justement dans une des premières scènes où est-ce que Emma apparaît, où est-ce qu'elle se met à frencher derrière le comptoir Dante, et là t'as ce client-là qui fait comme hey, c'est pas vraiment hygiénique, et c'est joué par Ben Affleck. Ouais. En plus, Affleck était même pas supposé parler pendant ce temps-là, c'est juste qu'il a décidé d'improviser cette réplique-là.
Il était censé faire comme dans les autres films là, où est-ce qu'il roule ses yeux, le gawk eye.
Aussi, ben on va voir également, comme on l'a vu dans la fameuse séquence qu'on vient de regarder avec Jay et Bob, on va voir Ethan Suplee, qui lui était dans Mallrats, si je me trompe pas. C'était le gars qui regarde le tableau, l'image abstraite pour voir un bateau, puis finalement, tout le monde la voit sauf lui.
Et dans Chasing Amy aussi, dans l'ouverture, là.
Pour vrai,
j'avais oublié
ça. C'est
le super fan qui rencontre Jason Lee pour lui faire signer un autographe, mais là, les choses tournent mal.
Ah, j'avais oublié
Oui, effectivement, il était là-dedans. Et au même moment, il jouait avec Jason Lee.
Exactement.
Dans My Name is Earl,
Jason
à ce moment-là.
Qui jouait son frère. Alors, mais parlant de Jason Lee, ben, Jason Lee, qu'on a pu voir carrément dans Chasing Amy, qu'on a pu voir dans Mallrats et dans d'autres films de Kevin Smith, arrive aussi, on va en parler un petit peu de son caméo tout à l'heure, mais il y a aussi ben, le producteur de toujours de Kevin Smith, Scott Mosier qui est là. Et ben, il y a des petits nouveaux de la famille de Kevin Smith. On va voir une petite apparition de sa fille, Harley Quinn. Et ben, on va voir plus tard aussi une apparition de la maman de Kevin Smith, Grace, qui reprend un des personnages très sympathiques de Clarice, la dame au lait, si je ne me trompe pas.
Exact,
donc,
dame
au lait. C'est ça, c'est tout à fait le fun de revoir un peu ces visages-là. Puis aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, comme tu l'as mentionné, il fait des films avec ses amis, puis c'est toujours des petits repères sécurisants sur une nouvelle production, d'avoir des vieux visages, des vieux potes qui sont là pour te montrer leur soutien en participant au projet. Aussi, ça fait sourire l'audience, c'est du fan service pour nous autres qui connaissons ces films-là. Alors, je vois aucune mauvaise chose là-dessus, c'est pas des caméos gratuits non plus.
Non.
Ça fait sourire plus que d'autres choses, carrément. Parlant du film, moi, j'aime bien la structure, la structure du scénario. Elle est presque identique à celle de Clerks, c'est-à-dire que oui, bon, il y a un scénario en trois axes, et ben aussi, moi, ce que je trouve le fun, c'est que bien sûr, Clerks et Clerks 2, faut qu'il y ait des petits arrêts pour, moi, ce que j'appelle des sketchs sur la pop culture, parce qu'encore une fois, Kevin Smith, je l'ai dit depuis tantôt, une de ses forces, c'est ce sont les dialogues, ce sont les dialogues sur la culture populaire, et il ne s'est vraiment pas gêné pour en mettre dans Clerks 2. Alors, on va avoir certains petits sketchs sur les Transformers, sur Lord of the Rings et sur d'autres choses. Mais là, regarde, je me suis rendu compte que je suis allé un petit peu trop vite dans mes affaires. Hey, fallait revenir sur Becky, ok? On parlait de la belle relation qu'ils ont ensemble. Mais moi, j'avais préparé un extrait pour ça, pour voir un petit peu la chimie qu'il y a entre les deux. Les deux sont dans le bureau de Becky. Et ben, il y a une petite référence justement à Clerks, où est-ce que, ben, toujours un peu, malgré tout, Dante, c'est un homme à femme. Et il n'a pas son pareil pour mettre du vernis à ongles sur les orteils et les doigts de ses copines. Alors, ben, Becky s'est rendu compte de ça. Alors, ben, les deux sont en train de parler pendant que Dante fait les ongles d'orteils de Becky. Alors, on regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau de leur relation. C'est parti.
So, my last day is all about you telling me what an ugly and indecisive loser I am.
Come on, you worked at Quick Stop for like a decade and you've been here for a year almost? And since day one at both jobs, all you've ever said is how you needed to get out and start your life. And it wasn't until Emma walked through the door and was like, come down to Florida with me and I'll fuck your brains out and my daddy will give you a job. That you actually went and did something about it. And I get it. She's your golden ticket, dude.
What's that make you?
I'm just the girl who fucks ugly, indecisive losers in the kitchen once this place is closed.
So we're never gonna talk about it, are we?
What is there to say?
Do you regret it?
Do you?
I regret that it was on the prep station table.
So yeah, you regret it. You weren't the one who got mayo in your cooch. We were drunk, you know? It just kind of happened. You're just lucky I'm not one of those monogamists like your girlfriend. Otherwise, I might try to make you stay in Jersey.
If anyone could do it, it'd be you.
Becky, toujours bien sympathique, elle commence à faire un peu réaliser malgré tout et malgré lui à Dante. Elle commence à peut-être qu'il fait le mauvais choix ou peut-être qu'il va se marier à une fille qui ben ne le désirait pas au départ, qu'il considère comme plus une deuxième chance dans la vie plutôt que quelqu'un qui l'aime authentiquement pour ce qu'il est. Alors, en tout cas, ça va, la discussion qu'on vient d'entendre ben, va faire son petit bonhomme de chemin ultimement dans la tête de notre ami Dante. Pour revenir justement à ce que je disais sur ces fameux petits sketchs-là sur la culture populaire, ben il y en a un qui a été très apprécié par le public à l'époque. Oui, bien sûr, il parle, mettons, des Transformers ou de trucs de même, mais Kevin Smith a écrit une scène formidable sur un petit engueulade entre Elias, un client, ainsi que Randall sur Le Seigneur des Anneaux, parce que les deux commencent à s'ostiner un peu sur quelle est la meilleure trilogie, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Randall va tout simplement leur montrer sa façon de penser par rapport à ça. On va écouter un petit extrait, puis moi ce que je trouve amusant pour la petite histoire, c'est que ce sketch-là que Kevin Smith a écrit, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il a existé avant le film. C'est que moi, je me souviens à l'époque, Kevin Smith l'avait fait à deux endroits. Premièrement, moi, je l'avais vu quand il était passé dans un talk show avec Conan O'Brien ou Jay Leno, je m'en souviens plus, où est-ce qu'il s'était fait demander « qu'est-ce que tu penses des Lord of the Rings? » Alors, il a dit exactement ce qu'il va se dire dans l'exemple. Et, ben, aussi, il l'a fait dans un de ses fameux spéciaux. Je pense que c'est Evening Harder, c'est okay. Ça, An Evening with Kevin Smith, le deuxième, où est-ce qu'il fait une version encore plus crue que ce qu'il a fait à la télé.
Oui, beaucoup.
Alors, je pensais qu'on pouvait l'écouter encore un petit peu pour vous donner une idée de ce que peut-être pense Kevin Smith de Lord of the Rings. C'est parti.
Let me tell you something. If Peter Jackson really wanted to blow me away with those Rings movies, he would have ended the third one on the logical closure point, not the 25 endings that followed. When fucking Frodo wakes up from his little coma or whatever and the little hobbits are jumping up and down on his bed and Sam leans in the doorway and gives him that very fucking gay look. That look was so gay, I thought Sam was going to tell the little hobbits to take a walk so he could saunter over to Frodo and suck his fucking cock. Now that would have been an Academy Award-worthy ending. And then right after the Sam-Frodo suck fest, right before the credits roll, Sam fucking flat-out bricks in Frodo's mouth.
Fait que ça donne le goût d'écouter Seigneur des Anneaux en regardant le film sous cet aspect-là maintenant. Je suis pas mal sûr que cette fin alternative-là va vous rester dans la tête pendant très très longtemps. On va revenir maintenant à nos structures de scénario peut-être un peu plus conventionnelles. Moi, ce que j'aime beaucoup après ces fameux sketchs-là, il y a une scène qui a l'air tout à fait anodine, mais qui fait son sens dans le film pour un des personnages et qui démontre un petit peu que Randall a quand même une intériorité un petit peu menacée, si on veut, une intériorité peut-être un peu plus fragile. Eh ben, il va se passer que un des clients qui débarque chez Mubi va être un certain Lansdowne, un gars avec qui Randall et Dante ont étudié à l'époque. Je sais pas si c'était au secondaire ou quelque chose du genre. Je pense que oui.
Secondaire, ouais.
Et ben, ce qui se passe, c'est que ce gars-là, Lance, a réussi. Il a fait fortune dans l'Internet, comme l'a fait plein de monde au début des années 2000. Alors, tant mieux. Alors là, il va venir au restaurant pour les faire chier un petit peu, pour aller vraiment voir de visu que ben deux personnes qui l'ont fait chier quand il était au secondaire ben sont encore à 33 ans en train de tourner des boulettes sur un grill dans un fast-food pendant que lui a réussi. Alors bon, il va se la jouer un petit peu, il va être très acerbe, très mesquin, très condescendant envers les deux.
Look who it is, Randall.
Randall Graves. You work here too? Jesus, anyone else from our graduating class back there?
Well, well, well. Pickle fucker.
Man, look at you two fun employees. Nothing's changed. You know, I'll bet dollars to donuts when you two aren't fighting about who shot first, Han or Greedo, you can still muster up enough energy to make fun of other people.
Yeah, so hurry up and order and get out of here so we can make fun of you.
Oh, I don't know if you're in a position to make fun of anyone anymore, Graves. 32 and you're flipping burgers? Before that, I'd heard it was the Quick Stop. For what, like 10 years?
We can't all be internet millionaires.
Who's an internet millionaire?
Elias, this is Lance Dowds. We went to high school together. A few years ago, we built a search engine which compiles the lowest prices of merchandise you can buy online.
Yeah, but back before he was the Mad Ducats guy, he was just pickle fucker. You see, freshman year, the seniors would hunt us down and put us through what they called initiations. They'd stuff us in the lockers or throw us in the girls' shower room naked. But Lance here got the worst of it. The seniors yanked down his pants and shoved a pickle up his ass and made him walk 10 feet. The pickle fell out before he hit the 10-foot mark. He had to take a bite of it, reinsert it, and walk again. But don't worry, he made it. His pickle was small enough to stay wedged after only 4 bites.
I'll bet you're the only guy in the world who still remembers that, Graves.
Oh, I bet you still remember it pretty vividly, pickle fucker.
I don't eat fast food. It's not good for you. But when I heard you guys were actually working here, well, I just had to see it for myself. It's kind of nice having that kind of free time. Just like it's kind of comforting to know that some things never change.
Alors là, il va se commander de la bouffe et là, pour se venger, Randall va carrément mettre de la pisse dans son verre, mettre des mouches dans son burger, lui donner. Mm. Puis, tout ça pour, tu sais, se venger un petit peu. Et après ça, bon, Lance s'en va donner sa bouffe à Jay et Silent Bob qui vont s'engaver, il n'y a pas de problème là-dedans. Et, ben, cette scène-là va faire péter un peu les fuses à Randall. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? C'est que Randall et Dante vont sortir. Dante va accompagner Randall au seul endroit au monde où est-ce qu'il va pouvoir se calmer les nerfs, c'est-à-dire sur une piste de go-kart dans laquelle il va y avoir une belle petite scénette où est-ce que les deux gars vont faire quelques tours de piste. Et la scène importante, c'est quand ils reviennent en voiture vers le Moobies. D'ailleurs, moi, j'adorerais faire comme eux autres, puis en plein milieu de mon shift, sacrer le camp pendant une heure, puis après ça, revenir quand ça me tente. C'est là où est-ce qu'on voit de la vulnérabilité enfin chez Randall, parce que, d'après moi, il est solidement dans sa crise de la trentaine, où est-ce qu'il va confesser qu'il a l'impression d'avoir rien fait de sa vie, d'arriver à 33 ans et que le monde l'a laissé tomber, de pas avoir réalisé son potentiel complètement, ou de travailler également dans un endroit où est-ce que son, comme je disais, son potentiel n'est pas réalisé, où est-ce qu'il y a pas de repère, où est-ce qu'il ne se sent pas bien. Puis le pire de tout, c'est son meilleur ami pendant comme les X nombre de dernières années, ben, va devoir quitter. Fait qu'il se sent extrêmement vulnérable, il perd tous ses repères sécurisants. Ouais. Et la discussion avec Lance Down, le fameux pickle fucker, ben, le voir avoir réussi, avoir fait fortune, ben, écoute, ça le fait péter ses gonds. Alors, moi, c'est ça que j'ai aimé voir, que finalement, ben, Randall est pluridimensionnel à l'intérieur de ce film-là, du moins dans la manière dont il est écrit et interprété. Un petit peu plus tard, ensuite, dans le film, ça va se remettre à focusser sur Dante et Becky. Parce qu'ultimement, Becky a appris une certaine nouvelle qu'on va apprendre un petit peu plus tard, dont je vais vous parler tout à l'heure. Dante a l'air très inquiet parce qu'il ne sait pas danser. Il est pas très bon. Alors, pendant leur cérémonie de mariage, à lui et Emma, bon, il veut impressionner sa famille. Alors, dans sa grande bonté d'âme, Becky va inviter Dante à monter sur le toit. Et encore une fois, une activité sur le toit, ça fait très Clerks, parce que dans le premier film, je pense que c'était une partie de hockey qui jouait sur le toit du Quick Stop. Alors, la même chose va se passer. Becky va donner un petit cours de danse sur ABC des Jackson 5 à notre ami Dante. Et c'est là où est-ce que Dante va voir Becky dans toute son effervescence, dans tout son petit brin de folie, où est-ce qu'elle s'amuse en dansant, tombe finalement amoureux d'elle et va lui déclarer son amour. Et entre les deux, il y a quelque chose qu'on a rarement vu dans un film de Kevin Smith, c'est-à-dire un petit numéro musical chorégraphié, très très happy, happy joy joy. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont apprécié Clerks 2 et ils n'aiment pas cette petite séquence-là. Ils trouvent que ça sort du film, on dirait que c'est ajouté artificiellement à l'intérieur, mais moi ça me dérange pas honnêtement. C'est un petit moment de joie où est-ce que tous les personnages sont relax. Je trouve pas que ça pète tant que ça le ton du film, et c'est plus divertissant que d'autres choses. C'est un petit moment, une petite bouffée d'air frais à mon sens.
Scène intéressante d'ailleurs qui commence avec Becky qui crie en bas « Hey, 12 step !» Et puis Jay regarde vers le haut, vers le ciel, et là, God! Belle référence justement à Dieu, à Alanis Morissette, de l'univers de Kevin Smith.
Mais c'est ça, je trouve bien amusant, c'est un petit moment, le fun. Je pense que le dernier moment musical qu'on avait eu, je pense, c'était à la fin de Jay and Silent Bob Strikes Back, parce que t'as Maurice and the Steps qui débarque, quelque chose de news.
Avec la danse sur le stage.
Et c'est là, après que Dante a enfin avoué son amour à Becky, qu'elle lui apprend qu'elle est enceinte. Et elle n'est pas enceinte de n'importe qui, elle est enceinte du bébé de Dante, parce qu'on apprend qu'à un moment donné, après avoir pris une bonne brosse, ben les deux sont débarqués dans le Moobies et se sont envoyés en l'air sur une table de préparation qui puis c'est la table de préparation de Randall, mais ça on lui dira pas. Et les deux sont un petit peu sous le choc. Dante va confesser finalement, va apprendre la nouvelle à Randall. Dante lui dit bon qu'il est en train de remettre vraiment tout en question avec Emma, parce qu'il se rend compte que c'est vraiment Becky la fille pour lui. Elle ne veut pas faire en sorte qu'il déménage du New Jersey. Il apprécie tout ce qu'elle a à offrir.
T'as Jay et Bob aussi qui sont derrière. Faut pas oublier qu'ils sont à côté de la porte, en train de tout écouter, malgré tout. Et puis, belle confrontation entre Randall et Dante, qui est justement comme Chasing Amy, la confrontation Joe Lauren Adams, justement Ben Affleck, qu'on a parlé un peu avant. Comme la façon qu'il l'a filmé, les deux entrecoupés très rapidement pour montrer la tension entre les personnages.
Ouais, ben une espèce de gros plan circulaire autour. C'est ça. Alors là, il lui dit vraiment, regarde, là, je te confie que Becky est enceinte de moi. Dis-lui pas, sinon je te pète la gueule si tu le dis. Becky arrive et qu'est-ce qui se passe? Finalement, Randall ouvre sa grande gueule et fait une référence aux parrains en plus en disant que votre premier enfant soit un enfant masculin. Becky sac son camp, elle est complètement insultée. Dante est en maudit contre Randall, même essaye de le puncher d'en face, ça marche pas. Dante Dante va partir, sous la recommandation de Randall, va partir pour essayer d'aller rattraper Becky pour aller s'excuser. Mais vu que c'est la dernière journée de Dante, ben Randall veut lui offrir un cadeau de départ des plus singuliers. Alors il va lui organiser à l'intérieur du Moobies un espèce de spectacle pour adultes qu'il n'oubliera jamais. Alors Randall a réservé les services de Kinky Kelly and the Sexy Stud, un espèce de magnifique show érotique d'Anne avec une femme. C'est incroyable. Donc selon lui, Randall, Kinky Kelly, c'est la superbe femme qui va s'amuser avec l'âne, le fameux sexy stud. En fait, c'est ce qu'il pense. Alors, pendant que Dante est parti, fait le tour de la ville en voiture pour trouver Becky, le fameux, justement, organisateur de ce show-là arrive, commence à faire l'installation à l'intérieur du Moobies, de tout le setup. Ensuite, bon, tout le monde revient au Moobies et arrive notre fameuse scène clé du film, le fameux spectacle érotique avec l'âne. Donc, tout le monde est au Moobies, Dante, Randall, Jay, Silent Bob, Elias, qui s'est super gros bourré la face en plus d'alcool, qui a l'air complètement sous ou gelé. Je pense qu'il est complètement gelé, ça se peut-tu, genre,
oui,
Jay, Silent Bob l'ont fait
exactement.
Fumer.
Il a pris, il a consommé ce qu'ils avaient.
C'est donc là que le show que tout le monde attend commence. Mais à la grande surprise de tout le monde, c'est pas une super belle femme qui sort de derrière le rideau avec son âne pour s'amuser avec. L'âne sort de derrière les rideaux, bien sûr, mais il est accompagné du gros organisateur du show, justement, qui a l'air d'une espèce de gros motard. Il est habillé en espèce de kit BDSM sadomaso et il commence à s'amuser avec l'âne. Alors là, Randall, qui comprend pas ce qui se passe, s'en va voir derrière le rideau pour voir s'il y a vraiment une fille derrière. Il y a personne. Là, il s'en va voir l'organisateur. Il demande « Mais qu'est-ce que c'est ça? » L'organisateur, il dit « Moi, c'est le sexy stud. » Puis Kinky Kelly, ben, c'est l'âne. Parce que Kelly, ça peut être un nom de gars aussi. Alors, ben, le show, à la surprise de tout le monde, ça va être un show d'érotica interespèce homosexuel. Toute la gang, au lieu d'être répulsée, ben à force de voir les choses, commence à être complètement absorbée par l'action. Alors là, c'est là qu'un paquet de monde vont débarquer en plein milieu du show. Alors Becky revient au Moobies. Dante avoue son amour pour Becky. Becky décide d'accepter son amour et voilà, les deux ben vont être ensemble. Tout de suite après,
au même moment, même.
Emma débarque avec un gâteau pour célébrer la fin du shift de Dante.
L'apogée totale.
C'est l'apogée totale. C'est le
tout
foutoir
arrive.
Complet. Elias exact. Qui fait des choses bizarre avec son corps en le show après
tout en pleurant
c'est
en
ça puis avec un gros show incroyable parce que l'âne ne se peut plus. Écoute, c'est complètement
l'âne ne se peut plus, le sexy stud non plus.
Non, écoute, c'est d'un érotisme incroyable, c'est hallucinant.
Et puis Emma est complètement écoute, elle voit son futur mari en train d'embrasser sa bosse. Elle voit derrière ça le interracial erotica. Donc là, vraiment, tout est en même temps pour elle. Et c'est tout un choc avec Jay qui vient lui apprendre la nouvelle.
Attention, félicitations pour votre enfant.
Félicitations, quoi? Exactement.
Allez, lance-lui ton gâteau. C'est ça, voilà. Non, c'est bien amusant. C'est ça, c'est le Capharnaüm complet.
Ouais.
Tout de suite après, ben, la police et les pompiers débarquent. Jay, Bob, Dante, Randall et l'organisateur, le fameux Kinky Kelly, se retrouvent dans une cellule d'isolation en prison en attendant d'être jugé. Et c'est là que débarque, selon moi, la meilleure scène du film. Là où est-ce que le talent dialoguiste de Kevin Smith est à son meilleur, où est-ce qu'encore une fois, tous les acteurs qui sont impliqués dans cette scène-là sont à leur meilleur aussi, principalement Brian O'Halloran qui fait Dante et Jeff Anderson qui fait Randall, ils sont à leur meilleur. Parce que là, vraiment, comment dire, le chaudron a explosé entre Dante et Randall, vraiment, ils sont sur le point de se sauter à la gorge et ils décident de se dire leur cas vérité. Donc, Randall va lui dire, regarde, cette fille-là, tu l'aimes pas, tu fais ça carrément pour te conformer à la société. Donc, en tout cas, whatever, ils se disent vraiment leur cas de vérité, grosse engueulade. Et finalement, ben, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont passer à travers toute la gamme des émotions, la haine, pour finalement revenir vers l'amour. Parce qu'à un moment donné, il lui dit, bon, avec toi, qu'est-ce que tu ferais, Randall, si t'es si intelligent que ça, pour te sentir bien dans ta vie, pour faire en sorte que tu t'acceptes, puis que tu sois moins chiant. Ben, il dit, c'est quoi, moi, j'achèterais le Quick Stop, puis je le réouvrirais, puis je l'opérerais à ma manière. Puis là, il se passe quelque chose, il y a une petite ampoule électrique qui apparaît en haut de la tête de Dante qui fait « Mais c'est une bonne idée, puis finalement, on pourrait faire ce qu'on veut comme dans le temps. » Sauf qu'ils n'ont pas de cash pour le faire, mais c'est là que débarquent Jay et Bob en disant « Ah oui, on en a de l'argent. » Parce que je pense qu'ils disent qu'à cause des éléments qui sont passés dans Jay and Silent Bob Strikes Back, ils ont plein de cash ou quelque
exactement.
Chose du genre. Alors, c'est eux autres qui vont faire en sorte qu'ils vont acheter le fameux dépanneur. Quelle merveilleuse scène, honnêtement. Ça te tente-tu qu'on en écoute un petit bout?
Très bonne idée.
You know what? You can bad mouth Quick Stop all you want, but I miss that place. I loved working there. I look back on that period as the best time of my life.
Now I know you're fucking nuts.
Why? Because I enjoyed what I did? I got to watch movies, fuck with assholes, and hang out with my best friend all day. Can you think of a better way to make a living? Yeah, maybe it's not what everyone does, but it was pretty fucking good.
Man, that's you all over. Scrape by with the bare minimum.
The dude who lives his life according to everyone else's standards. I gotta go to Florida and get married, because that's what's expected of me. And the fucking insane part is he ain't even that crazy about the chick he's marrying or Florida. Never mind the fact that he's got a perfectly good chick right here in Jersey who he's nuts about. And even Anne fucking Frank could see she's nuts about him. God knows why. And she likes you for who you are, man. She ain't trying to stuff you into a box you'll never fit into. Not to mention the fact that she's carrying your hideous fucking chud of a kid. Jesus, if you had any sense whatsoever, you'd fucking stop trying to bray it up with the rest of the sheep and live your life the way it makes sense for you, you fucking ass.
Oh, yeah? And what's that? You obviously have such a great handle on your life. Tell me what you would do if you were in my position. Or even what you'd do in your own position. Swing that judgmental pendulum back the other way and tell me how you'd solve all your problems, asshole. What the fuck would the great Randall Graves do if he were half the master of his destiny that I'm supposed to be?
I'd buy the Quick Stop and reopen it myself. That's what I'd do. That's what we should do.
On disait moment émouvant où est-ce que tout le monde est super bon. Puis ça fait en sorte que ben cette scène-là montre vraiment, comme on le mentionnait tantôt, la morale du film que moi j'aime bien, c'est que, comment moi je l'aperçois, c'est que peu importe l'envergure de tes projets puis tes buts dans la vie, fais-les sans te soucier ce que les gens ou la société en pensent puis voudraient que tu fasses, carrément. Ouais. C'est aussi simple que ça.
T'as pas été obligé d'être fité dans un moule, c'est ça, exactement.
Tout à fait. Donc c'est hyper important, c'est une belle petite morale, puis ça touche vraiment à tout le monde dans un paquet de sphères de leur vie. Alors moi, je la trouve très intéressante, très simple. Puis écoute, dans cette scène-là, elle ressort et c'est magnifique. Puis quand t'as connais, tu réécoutes le film sous un tout autre angle, sur une toute autre lumière. Alors ben, qu'est-ce qui va se passer une fois que Jay et Bob, bon, sauvent la situation en disant « on va fournir l'argent pour que vous l'achetiez ». Les gars sortent de prison et ça va faire en sorte que, premièrement, Dante va aller demander la main de Becky en mariage au service à l'auto de chez Boobies. En plus, elle va accepté de manière très romantique. Après ça, les rénovations commencent. Ils acquièrent le Quick Stop. Ils rénovent et tout ça. Et par la suite, ben, la grande ouverture se fait. Et bon, à la toute fin, la fameuse scène finale que j'aime bien. Oh non, mais juste avant, faut que je dise que Elias, finalement, s'est fait embaucher au RST Vidéo.
Exact. Qui aura des DVD aussi.
Oui, c'est ça qui est très drôle. Enfin, dans la modernité, peut-être dans 15-20 ans, ils vont peut-être tourner vers le Blu-ray. Je sais pas trop.
Peut-être.
On va voir ce que ça va donner. Mais c'est ça ce que j'aime bien par la suite. C'est que la dernière scène, les deux gars sont derrière le comptoir, là où est-ce qu'on les a laissés en 93. Le décor est pareil. Après ça, bon, magnifique petit traveling en arrière pour montrer. On s'en va vers le noir et blanc et on revoit un personnage qu'on connaît, la mère de Kevin Smith qui jouait la femme au lait qui est en train de regarder toutes les dates de péremption des pains de lait.
Sur une chanson de Saul Bassilum, exactement comme la fin de Clerks, l'original.
Exactement. Fait que la boucle est bouclée, c'est-à-dire on est vraiment parti du point A pour finalement revenir après la boucle au point A. C'est magnifique, honnêtement.
Même la citation Today. Attends, je vais te trouver ça.
Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie.
Hein. Exactement, de Abby Hoffman.
Oui, puis ça va
très
être,
bien
ça
dit,
va être une très belle vie parce que ces deux gars-là font ce qu'ils veulent.
Oui,
ils font
exactement.
Ce qu'ils aiment dans la vie. Oui. Ils sont bien, ils ont tout ce qu'ils veulent. T'sais, Dante, finalement, a son mariage, a la fille de ses rêves. Il reste au New Jersey, a son commerce
son
maintenant.
Enfant.
A son meilleur ami à côté de lui.
Ouais.
A Elias, un de leurs amis aussi, qui est juste à la porte à côté au RST Vidéo.
Jay et Bob qui sont de retour.
Oui, Jay et Bob qui sont là. Écoute, cette merveilleuse
petite scène est magnifique, justement, quand il touche le mur en voulant dire « Oh, nous sommes de retour, c'est ici. » Parce qu'évidemment, on se souvient que dans Jay Silent Bob, ils avaient essayé de retrouver le même confort dans d'autres dépanneurs, mais ce n'était jamais pareil, ils disaient eux-mêmes. Ça. Et là, cette fois-ci, il touche le mur en voulant dire « Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne, nous sommes de retour. »
On est à la maison, on a retrouvé notre spot.
Et avec leur deal, justement, le fait qu'ils ne soient pas arrêtés de nouveau, parce que Dante et puis Randall avaient appelé la police sur eux.
Un paquet de fois, exactement. Arrêtez de flâner, c'est
arrêtez
ça.
Arrêtez de flâner.
Je pense que c'était ça, la seule condition du prêt d'argent. On vous le donne l'argent, on peut flamber là quand on veut. Fait que tant mieux. Fait que une belle entente, le beau microcosme de 1993, il est là avec quelques additions. Fait qu'ultimement, tu peux pas avoir un happy ending plus beau que ça. C'est ça que j'aime beaucoup.
Non, exact. Oui. Je pense que c'est l'ultime.
Ça arrive aussi, tu sais, à des gens ordinaires. C'est ça qui est le fun, tu sais. C'est ça, c'est pas comme les preux chevaliers, c'est pas des super-héros ni rien. C'est juste des monsieur, madame, tout le monde qui ont une belle finalité. finalité dans la vie et tu peux pas avoir plus positif que faire
mené par des
de
bons
ça.
Dialogues comme tu le dis. Je pense aussi que justement le fait que ces films-là nous parlent en étant en ayant été commis nous-mêmes, donc en ayant vécu des choses un peu comme ça, ben c'est bon de justement donner un message, de dire ben écoute, oui, peut-être t'en es là, mais de toute façon, si tu continues, oui, tu peux réussir toi aussi à faire qu'est-ce que toi tu veux. T'es pas obligé d'aller dans le moule que la société t'a préparé puis répondre à tous ces critères-là.
Fait que voilà, c'était Clerks 2, Commis en folie 2. Alors, ben, on a principalement passé sur les points qui font en sorte que c'est un film très cher à mon cœur, un film que j'aime beaucoup et probablement, encore une fois, d'après moi, le meilleur de Kevin Smith. Avant qu'on se laisse, Jonathan, ben on récidive encore une fois avec notre fameuse petite section que j'ai baptisée « Savais-tu, Jonathan? » Chers auditeurs, comme d'habitude, je vais faire en sorte de vous apprendre un petit peu des faits, des anecdotes derrière coulisses et derrière scène pour Clerks 2, c'est-à-dire des petits trucs qui sont pas donnés à tout le monde de savoir, qui sont bien amusants un peu sur la genèse du film. Alors, es-tu prêt, Joe?
Oui.
C'est parti. Savais-tu, Jonathan, que quand Dante va chercher Randall en voiture au début du film, la maison d'où sort Randall est la maison où Kevin Smith a grandi pendant son enfance.
Ouais.
Savais-tu, Jonathan, que les cheveux qui dépassent de l'arrière de la casquette de Randall sont des faux? Ils sont simplement collés à la palette de sa casquette. Bien amusant.
Ben même, je crois que même que Silent Bob aussi, d'ailleurs.
Ben, je sais que Jay Silent Bob, c'est des extensions qui
oui,
sont
oui, des extensions, mettre... exactement, qui ont mis avec les casquettes.
Savais-tu, Jonathan, que la forme du terrain de jeu en face du restaurant Moby's est bâtie de manière à représenter un pénis et des testicules? C'est principalement visible dans la scène où Emma remet à Becky une invitation pour le mariage. Savais-tu, Jonathan, que, à l'origine, c'est Matt Damon qui devait interpréter le rôle de Lance Down, le fameux pickle fucker, là? Ben, à cause d'un conflit d'horaire avec le tournage de The Good Shepherd, Damon a dû annuler son caméo à grand regret. C'est donc Jason Lee qui a pris une journée de congé du tournage de sa série My Name is Earl dans le temps pour venir reprendre le rôle. Savais-tu, Jonathan, que plusieurs actrices ont été approchées pour jouer le rôle de Becky? Parmi elles, on retrouve Sarah Silverman, entre autres, Rachel Weisz, Liv Tyler, Bryce Dallas Howard et même Alanis Morissette. C'est finalement Rosario Dawson qui a accepté le rôle. Sa seule condition était qu'elle puisse assister au tournage de la scène du spectacle érotique avec Lana. Savais-tu, Jonathan, que Clerks 2 a été présenté en grande première au Festival de Cannes en 2006? À la fin du film, les spectateurs lui ont offert une ovation de plus de 8 minutes. Savais-tu, Jonathan, que le mot « fuck » et ses multiples variations ont été prononcés 136 fois pendant le film? Et pour finir, savais-tu, Jonathan, que Clerks 3 est prêt à être tourné depuis 2013? Kevin Smith est allé aussi loin que de sécuriser un budget de 8 millions de dollars et a débuté la recherche des lieux de tournage. Plusieurs des acteurs présents dans Clerks 2 ont confirmé leur retour, mais le projet est récemment tombé à l'eau parce qu'un des acteurs principaux s'est désisté du projet. Jeff Anderson, excuse-moi, maudit de tout.
Randall, pourquoi?
La cause principale du litige avec cet acteur serait une certaine insécurité à revenir devant les caméras et une mésentente contractuelle de longue date avec les producteurs, les Weinstein, pour ne pas les nommer, sur le mauvais versement des loyautés financières auxquelles il a droit depuis 1993. Mais Kevin Smith ne baisse pas les bras et nous promet que nous verrons Clerks 3 un jour ou l'autre dans un médium ou sous un autre.
Ben, on peut aussi dire qu'il y avait buzzing, qui était son scénario depuis 1994, que Kevin Smith avait écrit, qui était Clerks dans un restaurant, et qui mélangeait un peu univers Mallrats Clerks. Ouais. Donc, c'était censé être son prochain autrefois. Donc, si on avait eu ses podcasts, on aurait entendu parler de ça.
Ouais,
donc, ça, c'est un des scénarios qu'il avait terminé de faire.
Comment ça s'appelle? Rappelle-moi ça.
Buzzing.
Buzzing?
B-U-S-I-N-G.
OK.
Donc, ça, c'est une des choses. Et est-ce que tu savais qu'en 1995, ils ont fait un sitcom Clerks, et puis même que Brian et Jeff ont été pour l'audition, mais malheureusement n'ont pas été retenus pour leur propre rôle.
C'est ben con.
Et le sitcom a eu seulement un pilote qui est terriblement mauvais.
Ah, ça doit être horrible.
Et puis si tu le voyais, tu pourrais savoir pourquoi je te dis que c'est
Clerks,
terriblement mauvais.
Clerks, un sitcom, mon
Clerks,
Dieu.
Clerks, le sitcom, et évidemment avec le langage pas mal nettoyé, malheureusement. Et puis c'est pas la performance des acteurs non plus qui est vraiment très très bonne. Et puis Kevin Smith avait rien à voir là-dedans, mais c'était un an seulement après Clerks.
Ouais, ben c'est quoi, si tu veux, je peux renchérir là-dedans aussi, c'est que je pense un an après la sortie de Clerks, il y a le producteur Jim Jacks qui a approché Kevin Smith pour lui dire, regarde, on va faire un remake de ton film Clerks, mais en couleur.
Qu'est-ce que c'est ça? En couleur.
Ouais, je pense qu'il y a des gens qui avaient pas compris tout à fait le concept du film, hein. C'est ça qui était amusant.
Ils ont pas compris encore.
Et voilà, c'est ce qui met fin, mes chers amis, à notre épisode d'aujourd'hui. Jonathan, ça a été un vrai luxe de t'avoir aujourd'hui. T'as été super intéressant. intéressant. Ça a été super cool, encore une fois, de parler de ce film-là en ton compagnie. T'étais vraiment la meilleure personne, tout désignée pour venir parler de ça. D'ailleurs, mes micros, ça a été un plaisir de te revoir.
Merci beaucoup. Ça fait un plaisir pour moi aussi.
Puis j'espère qu'on va te revoir parce que je pense il faudrait qu'on se prenne un Terry Gilliam ou
un
Danny Boyle, quelque chose.
Oui,
du
un Danny Boyle serait excellent.
Moi, je te donne une mission dans les prochaines semaines. Pense à un film de Boyle ou de Cronenberg ou bien de Terry Gilliam qu'on a une affinité pour et que ça t'entraîne.
Vidéodrome, peut-être. Long live the new flesh!
Tout est possible. Fait que c'est la mission que
possible,
je te donne.
Exact.
Nos auditeurs vont être extrêmement heureux de te revoir pour qu'on discute
et
de ce fameux film.
Et je suis content de te revoir et de parler avec eux à nouveau.
Tout le plaisir a été sincèrement pour moi. Alors d'ici là, chers auditeurs, je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. Mon nom est Sébastien Bourget, je suis avec Jonathan Demel. Passez une belle journée et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Sans commentaires ou presque.